VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Bonjour, nos toutes dernières nouvelles. En Guinée, l'Organisation mondiale de la santé commence demain dans la région de Conakry des essais cliniques pour tester l'efficacité du vaccin canadien anti-Ebola, VSV et BOV. Des précisions avec le docteur Marie-Pierre Préziosi de l'OMS au micro de Camille Gros-Didier.
Il s'agit d'un essai clinique de phase 3, donc une étude clinique de phase 3 qui est faite selon les bonnes pratiques cliniques qui requièrent bien évidemment le consentement informé de tout participant.
Les vaccins développés par le Canada ont en fait rapidement émergé comme les outils prometteurs en raison de leur efficacité dans les études sur les primates non humains.
C'est bien cela, et il y a eu aussi des études quand même chez l'homme qui ont aussi confirmé une bonne tolérance et une bonne immunogénicité. On ne peut pas encore parler d'efficacité. L'efficacité, c'est un terme qu'on peut employer lorsqu'on constate que ça empêche la maladie. Là, on constate qu'il y a une réponse du système immunitaire avec un développement notamment d'anticorps qui sont dans les limites qu'on pense être protectrices, mais pour l'instant, on ne peut pas affirmer l'efficacité. C'est pour ça qu'on doit faire un essai clinique de phase 3.
Le docteur Marie-Pierre Préziosi, spécialiste des vaccins à l'OMS. Nigeria, selon l'AFP, le groupe islamiste Boko Haram rassemble des troupes à Groza, ville sous son contrôle au nord-est du pays, dans le nord-est, où il avait proclamé son califat. Hier, les militants de Boko Haram auraient massacré des dizaines de villageois à Groza et dans les localités voisines. Auparavant, des membres présumés du groupe islamiste nigérien avaient attaqué mardi le village de Njaba et tué au moins 68 personnes, tous des hommes et des garçons de 12 ans et plus. Les femmes ont été épargnées, selon Aminatou Momodou, habitante de cette localité de l'état de Borno. Et puis, au Niger voisin, une décision de la Cour d'appel de Paris rendue en janvier dernier a confirmé des accusations de corruption du gouvernement nigérien par le géant du nucléaire Areva. Accusation portée contre la société par l'Observatoire du nucléaire en 2013 lorsque Areva a accordé en pleine renégociation de contrat une aide budgétaire au Niger pour s'acheter un avion présidentiel. C'est cette semaine seulement que la nouvelle est parvenue au Niger, entraînant du coup une salve de condamnation, nous dit notre correspondant sur place, Abdul Razak Idrissa.
L'annonce de cette décision de la Cour d'appel de Paris confirmant la corruption de l'État du Niger par la société Areva a très vite fait réagir l'opposition politique. Elle demande la démission de 4 ministres dont les responsabilités sont établies dans l'achat de l'avion auquel l'argent a servi. Oumarou Hadari, membre de l'opposition politique.
Il s'agit là d'un acte gravissime qui finit de jeter le discrédit total sur le Niger. Nous voilà malheureusement, du fait de l'entêtement et de la surdité du gouvernement face aux interpellations de l'opposition politique, de la société civile et d'autres acteurs avisés que notre pays, le Niger, classé déjà dernier de la planète en termes d'IDH, se retrouve encore de par la gestion de Youssouf Mahamadou au rang des États corrompus et voyous.
Les organisations de la société civile actives dans le domaine des industries extractives se disent également profondément consternées après une telle annonce. Ali Idrissa, coordonnateur du ROTAP, le réseau des organisations pour l'analyse et la transparence budgétaire.
C'est quand même une grande consternation de pouvoir constater que des autorités démocratiquement élues peuvent tomber dans cette situation de corrompu. Nous pensions bien que là, le gouvernement nigérien doit pouvoir sortir et s'expliquer sur cette question.
Le gouvernement nigérien n'a encore pas réagi après l'annonce de cette décision. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Afrique centrale maintenant, le représentant de l'Union européenne au Burundi, Patrick Spiolet, ne souhaite pas une candidature du président burundais Pierre Nkurunziza à un troisième mandat lors des présidentielles de juin. Le diplomate a mis en garde contre la possibilité de troubles. Jean-Roger Bion.
Les tensions croissantes au Burundi à l'approche des élections se cristallisent notamment autour de l'intention prêtée à M. Nkurunziza de briguer un troisième mandat. Pour l'opposition, cela est inconstitutionnel, ce que réfute le camp présidentiel. Monsieur Spirlet, représentant de l'Union européenne au Burundi, accompagné des ambassadeurs allemands, belges et français, a présenté la position européenne à l'issue d'un dialogue entre l'Union européenne et le Burundi. De nombreuses voix se sont exprimées par rapport à la question du troisième mandat et nous avons exprimé notre souhait au gouvernement que ces voix soient écoutées, a déclaré le diplomate européen. La communauté internationale s'inquiète publiquement depuis plusieurs mois des tensions à l'approche des élections, mais c'est la première fois que l'Union européenne prend position sur la question d'un nouveau mandat du président sortant.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Consultation en Arabie Saoudite hier entre le secrétaire d'État américain et les représentants des États du Golfe arabo-persique. John Kerry est déterminé à atténuer leurs préoccupations au sujet de l'accord sur le nucléaire iranien en cours de négociation. Chérubin Dorsil.
Les alliés du Golfe, en particulier le Royaume saoudien, craignent qu'un accord nucléaire ne soit pas suffisant pour empêcher l'Iran d'acquérir l'arme atomique. Ils craignent également un allègement de la pression internationale sur Téhéran, ce qui lui laisserait les coudées franches pour intervenir davantage dans la question régionale. Le chef de la diplomatie américaine a cherché à les rassurer. « Même si nous nous engageons dans ces discussions avec l'Iran autour de ce programme », a dit M. Kerry aux journalistes, « nous n'allons pas détourner notre attention des actions de déstabilisation de l'Iran dans des endroits comme la Syrie, le Liban, l'Irak et la péninsule arabique, le Yémen en particulier ».
Actualité américaine maintenant, ici aux États-Unis, la famille de Michael Brown, le jeune noir abattu par un policier à Ferguson dans l'État du Missouri en août 2014, compte porter plainte au civil contre le policier et la ville de Ferguson. Des précisions avec Michel Joseph.
L'avocat de la famille a annoncé cette décision lors d'une conférence de presse hier. Nous voulons montrer, comme nous l'avons toujours estimé, que le policier Darren Wilson n'avait pas à tirer et tuer Michael Brown en plein jour, comme il l'a fait, et qu'il avait d'autres choix, a expliqué Maître Anthony Gray, que cite l'AFP. Maître Daryl Parks, un autre avocat de la famille, a précisé que la plainte visera le policier Wilson et la ville de Ferguson. Mercredi, le ministère américain de la Justice a annoncé qu'il n'allait pas poursuivre le policier Darren Wilson parce qu'il n'a pas constaté de sa part un comportement susceptible de poursuite judiciaire. Dans le même temps, le ministère a publié un rapport accablant faisant état de pratiques racistes généralisées de la police de Ferguson. La mort de Michael Brown le 9 août 2014 sous les balles de Darren Wilson avait donné lieu à des semaines d'émeutes violemment réprimées par la police.
Et maintenant, la minute économique avec Timothée Donormaille.
La Côte d'Ivoire, qui a connu des récoltes historiques de cacao en 2014, doit éviter le démon de la surproduction, a averti hier l'Organisation internationale du cacao pour le marché mondial. Il est difficile, voire impossible, qu'une production nationale passe d'1,3 million à 1,74 million de tonnes de cacao. 400 000 tonnes de plus, c'est énorme, a mis en garde hier Jean-Marc Anga, directeur exécutif de l'ICCO, que cite l'AFP. Le président Barack Obama encourage les réformes en Tunisie en vue de relancer l'économie nationale et pérenniser les progrès démocratiques dans ce pays. Dans un message vidéo adressé hier aux Tunisiens à la faveur de la conférence sur l'investissement et l'entrepreneuriat à Tunis, le chef de l'exécutif américain a notamment déclaré « Comme vous, nous savons que la démocratie a besoin d'institutions démocratiques fortes, mais aussi de croissance économique, d'opportunités pour que les citoyens constatent que la démocratie peut conduire à une vie meilleure. » Enfin, les compagnies aériennes American Airlines, Delta Airlines et United Airlines accusent leurs trois concurrents du Moyen-Orient, à savoir Qatar Airways, Etihad Airways et Emirates, d'avoir reçu 42 milliards de dollars de leur gouvernement en violation des lois de l'Organisation mondiale du commerce. Selon l'AFP, elles ont publié un rapport d'accusation de 55 pages demandant au gouvernement américain d'ouvrir des consultations avec le Qatar et les Émirats à ce sujet et aussi de geler l'attribution de nouveaux vols aux trois compagnies visées.
Et pour terminer, en Irak, le groupe État islamique a commencé à détruire au bulldozer la cité de Nimrod, joyau archéologique du nord du pays, dans le cadre de sa campagne contre l'idolâtrie. L'UNESCO a dénoncé aujourd'hui cette attaque contre le site archéologique de Nimrod, l'assimilant à un crime de guerre. L'UNESCO a saisi le président du Conseil de sécurité de l'ONU et la procureure de la Cour pénale internationale et exhorte la communauté internationale à tout faire pour stopper la destruction du site de Nimrod. Le ministère irakien du tourisme, lui aussi, a lancé un appel à l'aide au Conseil de sécurité de l'ONU. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info.